Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Denis Zungrana.
Attaqué par des riverains le 31 mai dernier comme étant des terroristes, les quatre Belges peuvent l'arrêter à l'abattoir de Bobo-Dioulasso sont libres, lavés de tout soupçon par la police. Procès dans le cadre de l'affaire dite incitation à incendier le palais du Moronaba. L'audience a été renvoyée au 21 juin prochain. Et puis réduction du train de vie de l'État. Désormais, tout ministre et président d'institution n'aura plus qu'un seul véhicule de service. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres. Violence meurtrière au Sénégal. Le président Macky Sall demande au gouvernement l'ouverture d'enquêtes judiciaires immédiates et systématiques. Notre invité du jour est l'international burkinabé Edmond Tapsoba, société du Bayer Leverkusen ou en Bundesliga allemande. Avec lui, il est question de son avenir à Leverkusen, mais aussi des objectifs pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Voici pour les titres. Bonjour et bienvenue. Les quatre Belges peuvent arrêter à l'abattoir de la ville de Bobo-Dioulasso le 31 mai dernier par les populations et traités de terroristes sont libres. Une libération qui fait suite à des enquêtes approfondies menées par la police. Ces derniers se sont retrouvés hier chez le chef de la communauté Peul de Bobo-Dioulasso. Des précisions avec Adama Assombié.
Amidou Diallo est l'un des quatre Peul arrêtés le 31 mai 2023 à l'abattoir de Bobo-Dioulasso par des populations et traités de terroristes. Il nous relate les faits.
On est à l'abattoir là, on débrouille là-bas un peu. Au séjour, là, j'étais parti là-bas le matin et je suis quitté à l'abattoir, je voulais monter sur le goudron là. Je suis venu trouver à deux messieurs qui étaient arrêtés, ils m'ont arrêté. Quand je me suis arrêté là, il y a un qui est venu, comme il va me saluer, il a enlevé les clés de mon moto. Quand je vais lui demander que c'est quoi seulement, il m'a attrapé. Il m'a poussé, je suis tombé avec mon tour. Quand je vois qu'il était dit, le deuxième là vient avec une figure. Il dit qu'il est de me tirer. Lui aussi, il a arrêté comme ça, avec figure là. On avait ça, je n'ai jamais vu. Les armes étaient avec lui là-bas. Quand on m'a arrêté à côté du goudron là, ils étaient deux personnes. Une personne avait arme. Donc dans peu de temps, on m'a frappé partout. Il a enlevé corde, il a attaché mes pieds là. J'ai attaché toutes les mains là. Quand il me frappait là, il y a un policier qui est couru, qui est venu le demander qu'est-ce que c'est quoi. Donc lui, il ne comprend pas, c'est lui qui m'a tiré avec, qui m'a fait rasseoir. Il a demandé qu'est-ce que c'est quoi. Il dit que moi, je suis djihadiste. Il dit que djihadiste, on peut attraper djihadiste comme ça. Il a vu quoi. Ils n'ont rien dit. Les deux personnes là, ils m'ont fouillé. Il y avait l'argent dans ma poche, ils ont enlevé l'argent là. Et c'est le policier là-même qui a appelé le bac là. Donc, ils ont venu me chercher. Mais c'est les policiers qui sont sur la route de Balakidendara là-bas. Donc ils ont parti nous donner les policiers là, qui nous sont des djihadistes. Donc les policiers ont fait leur enquête. Voir, et après le samedi, on m'a dit de partir, qu'ils ont vu que ce n'est pas la vérité. Les autres, ils ont les libérés hier.
Se joignant à ses frères, le représentant de la communauté Peul, tout en remerciant les forces de défense et de sécurité pour leur intervention rapide, invite les populations à plus de vigilance et de prudence. Adama Sombié, Bobo-Dioulasso, Radio Oméga.
Ouvert hier, l'audience concernant l'appel à incendier le palais du Moronaba a été renvoyée au 21 juin prochain. Le procureur souhaite que les prévenus soient maintenus en détention durant l'évolution de la procédure, car selon lui, il n'est pas exclu que d'autres personnes soient interpellées pour le même dossier. Malgré la demande de mise en liberté provisoire formulée par les avocats de la défense, le tribunal a marqué son refus. Abdelaziz Zoulabou.
Le dossier Marcel Tonkornou et autres était retenu parmi ceux qui devaient être jugés ce jour, mercredi 7 juin. Au fil des heures, la probabilité que cette affaire livre son contenu se dissipe et toutes les parties s'accordent pour un renvoi du dossier. Mais avant, quelques plaidoiries s'invitent sur la table des discussions. Il s'agit d'une demande de liberté provisoire adressée au tribunal par la défense et les arguments ne manquent pas. Abdoul Latif Dabo, avocat de la défense.
On demande de renvoyer le dossier pour faire venir quelqu'un qui est absent, que vous n'avez même pas dit de venir, pour qu'on le juge. Vous apprécierez. Pourquoi c'est cette seule personne-là qu'on laisse en liberté et qu'on enferme les autres. Et c'est pour ça que nous l'avons dit, que nous voulons qu'on rétablisse l'équité entre les personnes poursuivies. Où tout le monde est dehors, où tout le monde doit se trouver là, où tout le monde doit y être, afin qu'on puisse quand même les juger conformément à l'égalité et à l'équité.
Très vite, le risque de subornation de témoins est soulevé par le parquet pour contrecarrer la défense. Laquelle défense qui trouve cet argument inapproprié? Abdoul Latif Dabo.
Donc, le procureur ne peut pas dire aujourd'hui que si on laisse les gens sortir, qu'ils vont empêcher les témoins de dire la vérité, ils vont tenter de corrompre les témoins. Corrompre quel témoin? Dans la mesure où le témoin a déjà fait une déposition. Or, quelqu'un qui a déjà déposé sur PV, s'il vient et qu'il se rétracte, lui-même, on peut le poursuivre, on peut le sanctionner. C'est pour ça que nous disons que ces arguments ne peuvent pas prospérer.
Le tribunal, ayant le dernier mot, a tout simplement décidé de renvoyer le dossier au 21 juin prochain, une décision dont prend acte la défense.
Et nous parlons à présent de réduction du train de vie de l'État. La question était au menu au Conseil des ministres. Tout ministre et président d'institution n'aura plus qu'un seul véhicule de service. Ainsi en a donc décidé les autorités. Le gouvernement a, à ce sujet, développé un logiciel de gestion du parc automobile de l'État. Cette plateforme va permettre de géolocaliser les véhicules de l'État, à en croire le ministre de l'Économie, Aboubakar Nakanabo, que nous écoutons ici.
Le gouvernement de la transition s'est engagé dans le sens de la réduction du train de vie de l'État. Et parmi les poches de dépenses, il y a la question des véhicules. Et donc, pour faire face à cela, un décret a été pris en conseil pour réglementer l'utilisation des véhicules de l'État. Donc, désormais, il sera affecté à chaque ministre un seul véhicule et les autres véhicules seront mis dans le parc central et l'utilisation sera en fonction, bien sûr, des besoins si le véhicule tombe en panne. Alors, à côté de ces textes, il y a également des outils qu'on a développés pour pouvoir mieux gérer le parc automobile de l'État. Il y a un logiciel de gestion du parc automobile de l'État qui a été déployé, qui nous permet aujourd'hui de connaître la situation de chaque véhicule de l'État et les lieux où les véhicules se trouvent. Et par ministère et institution, nous pouvons dire aujourd'hui combien de véhicules il existe dans chaque ministère et institution. Donc, cela permet de rationaliser la gestion des véhicules de l'État.
Aboubakar Nakanabo, ministre de l'Économie et des Finances. Le gouvernement a aussi décidé de lever les mesures restrictives prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Et ce, au regard d'un certain nombre d'indicateurs. En plus, pour le ministre en charge de la Santé, Jean-Claude Kargougou, le COVID-19 ne constitue plus une urgence de santé publique de portée internationale. Nous l'écoutons également.
Il nous souvient tous qu'un certain nombre de mesures portant restriction des libertés et portant observation d'un certain nombre de mesures obligatoires en matière d'hygiène avaient été prises pour contrôler, pour lutter contre la COVID-19. Aujourd'hui, en rapport avec la baisse drastique du nombre de cas et du nombre de décès, et en rapport aussi avec le fait que la COVID-19 ne constitue plus une urgence de santé publique de portée internationale, il a paru important pour le Conseil d'adopter ce rapport qui va permettre d'alléger les conditions d'entrée et de sortie au niveau du Burkina Faso.
Des propos recueillis par la présidence du Faso et concernant l'enseignement, il a été présenté et validé en Conseil des ministres. Une toge faite en Faso d'Infani et confectionnée par les stylistes burkinabè qui sera désormais utilisée dans les institutions publiques d'enseignement supérieur et de recherche au Burkina Faso lors des cérémonies officielles et des soutenances. Et nous parlons à présent du Sénégal où le président Macky Sall vient de sortir de son silence suite aux affrontements qui ont coûté la vie à 16 personnes. Il a condamné ce qu'il qualifie de violence humaine, des actes de saccage et des cyberattaques contre des sites stratégiques du gouvernement. Il condamne donc des agressions extrêmement graves contre l'État, la République et les institutions. Une réaction relayée dans un communiqué du Conseil des ministres en date d'hier soir. Le chef de l'État sénégalais demande au gouvernement l'ouverture d'enquêtes judiciaires immédiates et systématiques pour faire la lumière sur les responsabilités liées à cet événement. Sur ces violences meurtrières dans le pays, les ressortissants sénégalais résidant à Ouagadougou pensent que tout le monde est responsable de ces hommes. Par conséquent, ils appellent les différents protagonistes au dialogue afin que la paix puisse revenir au Sénégal. Une équipe de Omega Media est allée à leur rencontre mardi dernier, Ibrahim Niaoné.
Suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse par le tribunal criminel de Dakar le 1er juin dernier, le Sénégal était à feu et à sang. Des manifestations tous azimuts ont éclaté dans le pays. causant la mort de 16 citoyens à la date du 5 juin. Une situation que des ressortissants sénégalais déplorent.
Ces deux jours, le commerce est paralysé. Ces deux jours, je dois même dire que le Sénégalais est victime de violence, de délinquance.
En tant que Sénégalais, en tant qu'Africain et même en tant qu'humain, c'est très décevant de voir qu'on tue des personnes jusqu'à en arriver à 16. La sensation que j'ai en ce moment, c'est une situation vraiment de désolation, vraiment déçu de ce qui s'est passé au Sénégal.
Ces deux jours, on voit beaucoup de violence au Sénégal et vraiment, ça ne nous honore pas et ça donne vraiment une mauvaise image du pays de la Teranga. Donc moi, je pense que c'est une situation qu'on déplore et qui doit rapidement prendre fin.
Ces manifestations qui endeuillent le Sénégal seraient à l'origine d'une prise de conscience de la jeunesse. Selon Abdoul Sylla, citoyen sénégalais.
La jeunesse commence à prendre la conscience. Elle est en train de se réveiller. Et partout où la jeunesse devient de plus en plus consciente, le pouvoir politique a du mal. Que la jeunesse devient de plus en plus consciente, elle se lève. Puisque nous avons des anciens qui ne se révoltaient pas, maintenant la jeunesse a commencé maintenant à prendre la main. Et c'est ça qui amène l'affrontement entre le pouvoir politique et la jeunesse.
Pour ces derniers, tous les Sénégalais sont responsables des scènes de vandalisme enregistrées au Sénégal. Abdoul Sylla.
Le pouvoir spirituel, c'est les chefs religieux, les enfants, la jeunesse. La jeunesse est inconsciente. Mais celui qui est responsable, c'est plutôt le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. C'est-à-dire nous tous, y compris nous qui sommes des responsables.
Contrairement à Abdoul Sylla, l'avocat Ibrahima Mbou pointe du doigt la responsabilité du leader de l'opposition. Appeler la jeunesse à manifester dans les rues après le verdict n'est pas un acte responsable, a-t-il martelé.
Non content de cette décision, je crois qu'il y a d'autres voies légales qu'il faut explorer et non d'appeler à la violence. Ça, c'est de l'irresponsabilité. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut naturellement taire ces actes de vandalisme. Il faut laisser de côté ces actes de violence qui, de toute façon, ne pourront jamais prospérer.
Estimant que l'accusé Ousmane Sonko aurait dû recourir à d'autres voies légales, il invite par ailleurs le président Macky Sall à renoncer à un troisième mandat.
Encore une fois, légalement, le président Macky Sall a la possibilité de se représenter. Mais si j'avais un conseil à lui donner, compte tenu du contexte actuel, compte tenu de ce qu'il a déjà fait pour le pays, je crois qu'il peut quand même se retirer de cette course présidentielle à venir et de renoncer à un droit.
S'il y a une chose sur laquelle ces Sénégalais vivant au Burkina sont unanimes, c'est la préservation de la paix. À cet effet, Cheikh Ndiaye appelle les protagonistes à taire leurs divergences et regarder dans la même direction pour l'intérêt de la nation.
Alors, moi, j'appelle les deux parties vraiment à lâcher du lest, à mettre de l'eau dans le vin et puis à se retrouver autour d'une table pour échanger autour de cette question et de vraiment trouver une solution et par la suite d'appeler vraiment les jeunes à retourner à la maison.
Que ce soit les Sénégalais vivant au Burkina et les Burkinabés vivant au Sénégal, tous souhaitent que de telles scènes de violence comme celles survenues le 1er juin dernier au pays de la Teranga ne se reproduisent plus.
La revue de presse.
La revue de presse de ce jeudi 8 juin 2023 nous est présentée par Asmao Dao.
La situation sécuritaire, l'actualité sociopolitique et l'examen du certificat d'études primaires retiennent l'attention des confrères. Situation sécuritaire dans la COSI, des actions d'envergure s'imposent selon le confrère Le Quotidien. Depuis quelques jours, Nouna et ses environs ploient sous la pression des groupes armés terroristes. Plusieurs d'ailleurs se sont déplacés. Ces épreuves du CEP-là, franchement, s'exclame l'Express du Faso. À vrai dire, selon lui, les sujets du CEP cette année ont été coriaces et on a peur pour nos enfants. À première vue, on a l'impression d'avoir affaire à des sujets de troisième. Même au sein du corps enseignant, on se dit abasourdi par le contenu des épreuves, si fait qu'on ne cache pas non plus ses inquiétudes quant aux résultats, rapporte le confrère Bobolet. Sidoya, quant à lui, indexe une mauvaise conscience des autorités nigériennes dans la crise sécuritaire que traversent le Burkina Faso et le Mali, se référant aux sorties médiatiques du chef d'état-major de l'armée nigérienne, le général Abu Tarka, et du président nigérien Mohamed Bazoum. Comme si le front de la lutte contre le terrorisme ne suffisait pas, le Burkina Faso et le Mali doivent aussi essuyer des salves qui partent des moyens de communication les plus divers se référant aux sorties médiatiques. Le comble, c'est lorsque certains condamnent d'autres qui, en toute souveraineté, décident de prendre leur destin en main. Or, de nos frontières, au Sénégal, y prévaut une situation de ni chair ni poisson, selon le confrère aujourd'hui au Faso qui poursuit. Un calme, certes, dont certains se plaisent à annoncer les aspects. Reprise de la circulation, pas de marche, ni acte violent, appel au calme. Mais tous savent que si la tension est retombée depuis dimanche 3 juin dernier, le Sénégal reste en apnée. Seuls Macky Sall et Ousmane Sonko peuvent concocter une paix des braves pour le bonheur du Sénégal, pense ce jeune confrère. Génocide rwandais. Quand Félicien Kabouga s'en tire, à bon compte titre le pays, à bon compte titre le pays, et l'obs de titrer qu'il est sauvé par la folie. Entre les lignes, il rapporte qu'il est déclaré inapte pour raison de santé. À 84 ans, le tribunal des Nations Unies basé à La Haye, aux Pays-Bas, a décidé donc de ne plus le juger. Selon le confrère Le Pays, le distributeur des machettes aux miliciens et chef d'orchestre de la tristement célèbre radio-télévision libre des Mille Collines, n'aura pas l'occasion de raconter ses faits à la face du monde. L'amertume des survivants du génocide doit être grande, estime-t-il. Mais pour ce confrère, tout n'est pas pour autant perdu pour les victimes. D'abord, parce que le monde et la jeune génération de Rwandais ont eu l'occasion de découvrir l'un des visages hideux qui ont orchestré le génocide. Et ensuite, parce que la justice immanente va se charger de rendre justice aux victimes, confie ce journal des 1200 logements.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Comme annoncé en titre, notre invité de ce jour est Edmond Tapsoba, international burkinabé, sociétaire du Bayer Leverkusen en Bundesliga allemande. Le défenseur a terminé la saison comme le burkinabé ayant joué le plus grand nombre de matchs à cette saison. Il répond aux questions de Bernabé Cabré.
Edmond Tapsoba, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes à la fin de la saison. Quand on fait le compte, c'est plus de 40 matchs, 48 matchs précisément. Que ce soit en championnat, en Coupe d'Allemagne, en Ligue des Champions et en Ligue Europa. Personnellement, quel bilan vous faites de votre saison avec Leverkusen?
Tout d'abord, vous remercier pour cette initiative. Concernant ma saison, je peux dire que ça a été une saison bien, j'ai bien fini la saison, même si on n'a pas atteint l'objectif qu'on s'est fixé, qui était la Ligue des Champions. On a arraché la Ligue Europa grâce à la victoire de Leipzig, qu'on remercie d'ailleurs au passage. Collectivement, ça n'a pas été une si bonne saison que ça, mais individuellement, je peux dire que je me suis bien rattrapé parce que j'ai mal commencé la saison. L'équipe a mal commencé la saison puisqu'on était 17e au début de saison. Et à la fin du championnat, on finit 6e. On ne peut que se féliciter de soi-même et se dire qu'on a bien bossé pour revenir.
Je me rappelle de votre match la dernière journée en phase de poule de Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid. L'Atlético devait gagner pour aller au second tour, sauf que Leverkusen voulait aussi jouer la Ligue Europa et ne pas être éliminé de toutes les compétitions européennes. On a vu l'ambiance au stade de l'Atlético Madrid. Comment c'était ce jour-là?
Je peux dire que c'était l'un des stades les plus ambiancés que j'ai jamais joué, parce que les supporters étaient derrière eux. Et si vous avez bien vu, ils ont eu un pénalty à la fin du match, l'arbitre siffle à la fin du match. Et moi, j'étais déjà sorti parce que j'avais une petite douleur. Et j'étais sur le banc, je tremblais. Mais Dieu merci, ils ont raté. Et on est parti en Ligue Europa.
On a vu aussi que cette saison, tes parents ont assisté à quelques matchs d'Edmond Tapsoba. La première fois, vous aviez marqué. Quel est l'impact de vos parents sur votre prestation lorsqu'ils sont dans les gradins?
Je peux dire que quand je suis sur le terrain, je représente, je peux dire, tous les Burkinabés et mes parents en premier. Parce que c'est eux qui m'ont mis au monde et jouer devant eux, je me devais de tout donner. Et Dieu m'a donné la chance de marquer devant mes parents et je ne peux qu'être fier de moi-même.
Et l'avenir d'Edmond Tapsoba, c'est à Leverkusen, c'est une question que tous les Burkinabés ont sur les lèvres. Est-ce que Edmond va rester à Leverkusen? Autant vous dire d'ores et déjà qu'ils veulent vous voir passer à un cap supérieur.
Pour l'instant, Edmond Tapsoba est à Leverkusen et je me dis que ma tête est à Leverkusen. parce que j'ai toujours un contrat à longue durée avec eux, donc ma tête est focalisée sur Leverkusen pour l'instant. Et on verra ce que nous avons la suite.
On apprend que Deco devrait être nommé directeur sportif du Barça. Vu vos relations, est-ce que Edmond va atterrir à Barcelone?
Edmond est à Leverkusen pour l'instant.
Il y a aussi Arsenal qui essaie de se positionner.
Ce ne sont que des rumeurs, donc attendons voir. Mais pour l'instant, comme je vous l'ai dit, ma tête est à Leverkusen et je prépare mon début de saison à Leverkusen.
On parle maintenant de l'équipe nationale. Vous êtes qualifié pour la CAN en Côte d'Ivoire à 2 journées de la fin. Le prochain match, le 18, ce sera contre le Cap-Vert. Vous êtes déjà qualifié, sauf que le coach a indiqué que la première place n'est pas encore un acquis. Comment vous allez aborder ce match? Comme si vous n'étiez pas qualifié ou dans la peau d'un favori?
Tu peux dire qu'actuellement, les gens pensent qu'on est en vacances, mais on n'est pas encore en vacances parce qu'il reste un match de l'équipe nationale à jouer. On va prendre le match comme tous les deux matchs comme on l'a pris parce que nous, on veut finir premier pour pouvoir être un peu favori dans les poules. Et on va se donner à fond comme tous les autres matchs. Donc, du coup, je peux dire qu'on va attaquer ce match comme les matchs précédents.
Sauf que les deux derniers matchs des étalons n'ont pas beaucoup séduit le public. Il y a eu des critiques par-ci, par-là, par rapport à la qualité de jeu produit sur le terrain. Cette critique ont atteint Edmond Tapsoba?
Bien sûr, mais je me dis aussi que l'essentiel, c'était de se qualifier et on l'a fait. Si on jouait bien et qu'on ne se qualifiait pas, ça allait être les mêmes trucs. Donc du coup, on est juste de prendre les critiques, essayer de s'améliorer sur ce côté-là. Mais l'essentiel est déjà fait. Donc à nous maintenant de nous améliorer maintenant pour aborder la CAN.
La CAN, ce sera en Côte d'Ivoire en janvier-février prochain. Dernièrement, Samuel Eto'o Fils était à Ouaga. À l'issue d'une audience avec le chef de l'État, il a indiqué qu'il aura beaucoup de pression vu la proximité entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Vous êtes de cet avis?
Oui, on est de cet avis parce qu'il n'y a pas un seul joueur burkinabé qui n'a pas une famille en Côte d'Ivoire. Et le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est la relation, les liens qui réunissent et qui lient ces pays. Donc, c'est sera comme on joue à domicile. Et je pense qu'il y aura beaucoup d'Ivoiriens qui vont nous supporter aussi. Donc, comme si on jouait au Stade 4 août.
Vous avez un choix particulier par rapport à la ville, Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo, San Pedro?
Je ne connais pas très bien les villes où il y a beaucoup de Burkinabés, mais j'ai entendu dire qu'à Bouaké, il y a beaucoup de Burkinabés, donc pourquoi pas jouer là-bas.
On vient de parler des stades ivoiriens, c'est à l'occasion de la CAN, des stades qui ont été rénovés, construits. Depuis quelques années, vous jouez à l'extérieur. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cela?
On ressent l'absence de notre public, parce que jouer à domicile et puis jouer au Maroc, ce n'est pas pareil. Parce qu'ici, on sent que le public nous pousse et on a besoin de pouvoir avancer aussi quand on est fatigué pour nous pousser. Et aussi, il y a les parents aussi qui sont là. Donc, ce que je peux dire, c'est que la fédération et puis le ministère essaient de voir sur ce côté-là pour vraiment nous aider. Parce qu'on en a besoin. On a besoin du 12e homme pour nous booster à conquérir les victoires.
Dernière question, on va vous demander votre 11 de rêve en équipe nationale, du gardien de but jusqu'au buteur. Vous n'étiez pas préparé. Alors, vous allez vous y jeter?
Pas le gardien. Père à son âme, Soulama Ablaï. Et en centrale, je mettrai Bakary Koné et Youssouf Dayo. Latéral gauche, Koulibaly. Latéral droit, je mets Kofi. Au milieu de terrain, Charles Kabore, Zakaria Koné. Je dois être Peter Opa un côté, Vétra un côté. Et en point, je joue Dagano et Bansé.
C'est votre 11 rêve.
Ouais.
Merci bien, Edmond Tapsoba.
Merci beaucoup.
C'était l'invité de la rédaction.
Notre invité, le footballeur burkinabé Edmond Tapsoba, à l'instant interrogé par Benabé Kabri. Yaya Diomondi à la retransmission sur Facebook, Edwige Atinerebegou à la technique, Denis Zungrana pour la présentation, vous l'aurez compris. Ici donc sur FM, ce journal, et nous nous quittons avec ce proverbe. Dans la descente du courant, on peut se faire des amis, mais dans la montée, c'est impossible. Excellente journée en méditation.
Radio Omega, l'info en direct.